Sur Radio Galaxie, la prochaine conférence organisée par la Pupe en Vol se tiendra le mercredi 22 mai à Carbonne et portera sur la révélation d'une statuette préhistorique surnommée la Vénus de l'Espugue. Bonjour Nathalie Roucquerolles.
Bonjour et merci de m'écouter.
Avec grand plaisir, merci à vous de prendre un peu de votre temps. Vous êtes une spécialiste de la préhistoire, vous avez été membre du CNRS du laboratoire Tracès à Toulouse, également auteur de plusieurs ouvrages. Parlez-nous de cette statuette préhistorique découverte en 1922 à l'Espugue, en Haute-Garonne.
Ah oui, bien sûr, je peux en parler même, je pourrais en parler très très longtemps si le temps était donné, car c'est une œuvre absolument exceptionnelle. Mm-hmm. Je dis souvent, je ne sais pas si on a pu réaliser quelque chose de plus extraordinaire depuis, malgré le fait que cette figurine mesure 14 cm et demi, ce qui est tout petit.
D'accord.
C'est de l'ivoire de mammouth. Okay. Et c'est une œuvre réalisée par Homo sapiens, c'est-à-dire nous, hein, ce sont les mêmes personnes que nous, la même intelligence, et même dans cette œuvre-là, une intelligence tout à fait extraordinaire de conception, de réflexion, d'organisation, puisque ce personnage qui paraît comme ça au premier abord, bon, oui, c'est une petite œuvre, oui, très bien, c'est une petite femme, sauf que c'est bien plus que ça, et c'est ça que je vais raconter lors de cette conférence.
Alors, comment elle a été découverte ?
Elle a été découverte en 1922 dans une grotte à l'Espugue. Vous savez que l'Espugue est bordée par un défilé, oui c'est ça, un ravin qui est creusé dans des falaises calcaires de plusieurs millions d'années. Et ces falaises sont perforées de tout un tas de petites cavités plus ou moins grandes, dont l'une, la grotte des Rideaux, a été fouillée à partir de 1911 par un monsieur passionné d'archéologie, médecin, qui s'appelait René de Saint-Périer. Mmh. Après la guerre, il est encore revenu, et c'est en 1922 donc qu'il trouve cette œuvre exceptionnelle.
Mais on ne s'attendait pas à y tomber dessus, c'est arrivé totalement par hasard à cette période.
Alors, on connaissait des petites statuettes de représentation féminine, il en avait été trouvé quelques autres dans les Landes notamment, et puis près de la frontière italienne à Grimaldi.
D'accord.
La fameuse dame de Brassempouille et puis les statuettes de Grimaldi. Donc on savait que ça existait à cette période-là, si vous voulez,
okay.
Mais c'était quand même extrêmement rare.
Et pourquoi le nom de la Vénus de l'Espugue ? Pourquoi la Vénus ?
Alors Vénus, c'est un nom qui a été donné on est donc au début du XXe siècle, et comme je vous disais, quelques autres avaient été trouvés auparavant. Et les formes qu'elles avaient étaient des formes plutôt développées, pas toutes, hein, mais certaines plutôt arrondies, très arrondies. C'est une période qui héritait du racialisme et du racisme du XIXe siècle.
Mmh.
Et c'était un peu par moquerie qu'on les avait appelées Vénus, par opposition à la Vénus antique, dite Vénus Callipyge, qui était la Vénus aux belles fesses antiques. Et c'est quelque chose qui n'était pas très joli hein, du tout. Malgré tout, le nom est resté, et peut-être maintenant il est entendu de manière plus positive, mais moi j'aime bien parler de la Dame de l'Espugue, voilà.
Donc c'est une statuette qui date de 25 000 ans, Nathalie, et ça représente vraiment le corps d'une femme qui se tient debout, je crois. Hein.
Oui, elle a effectivement à peu près 25 000 ans, puisqu'on ne peut pas dater le mammouth, on ne sait pas.
Okay.
Et puis, de toute façon, cette œuvre aujourd'hui est extrêmement fragile et ne sera pas touchée pour le moindre prélèvement à des fins de datation, qui d'ailleurs donnerait l'âge du mammouth et pas celui de la statuette. Hein.
Oui.
Et oui, c'est le corps d'une femme, indéniablement, il n'y a aucun doute là-dessus, mais une femme extrêmement stylisée. C'est une œuvre d'art à partir du corps féminin, on pourrait dire ça, avec des formes qui n'ont plus tellement à voir avec le corps anatomique, et vraiment l'anatomie féminine, même si on comprend très bien sûr, qu'il s'agit d'une femme. Mais les traits sont interprétés, travaillés, et à des fins très particulières. Il y a un objectif très précis que je ne vais pas vous révéler, bien sûr, maintenant.
Il faudra se rendre à la conférence du mercredi 22 mai à Carbone.
Oui, bien sûr.
Oui, parce que ça montre qu'on a déjà, à cette période de la préhistoire, on avait tout d'un design actuel avec des lignes et des formes assez nettes et précises. Donc, il y avait déjà des talents cachés à cette époque et qui ont inspiré de nombreux artistes d'ailleurs du XXe siècle.
Oui, tout à fait. C'est la surprise de cette découverte, la Vénus de Lespug, la surprise qu'ont éprouvé les artistes du XXe sont nombreux. Brassailles, Brancusi, Picasso, Louis Bourgeois, etc. De nombreux ont été tout à fait stupéfiés par cette statuette. Picasso en avait deux reproductions dans son atelier. Giacometti aussi en avait une aussi reproduction dans son atelier. Mais ils n'ont pas été au bout de du regard. Voilà, c'est ça. Il fallait aller plus profondément dans le regard. Et curieusement, ils ont senti, tous, ils ont compris qu'il y avait quelque chose de très particulier dans cette figure. Mais ils n'ont pas été jusqu'au bout du regard. Et c'est ce que j'ai essayé de faire.
Elle a suscité de nombreuses questions. On la surnomme d'ailleurs la Joconde de la préhistoire. Vous, Nathalie, qu'est-ce que ça vous inspire et quelles sont les interrogations que vous vous posez face à cette découverte ?
Oui, on l'a surnommée la Joconde de la préhistoire. Du reste, c'est le titre du film qui a été réalisé l'an dernier sur elle, La Vénus de Lespug, Joconde de la préhistoire. Pourquoi ? Parce que, oui, il y a des correspondances avec la Joconde de Léonard de Vinci, aussi étrange que ça puisse paraître. Quand on a compris, quand je montrerai pourquoi cette figure n'est pas une, mais plusieurs, pour quelles raisons, comment elle a été conçue pour arriver à un certain résultat, on voit qu'il s'agissait de fêter, de célébrer la vie et le mouvement. Or, la Joconde, c'est la même chose. Léonard de Vinci, il veut montrer le lien entre le fond, qui est un fond préhistorique, chaotique, et la vie qui tourne, la peinture. La Joconde, elle tourne sur elle-même, car son sourire est relié au fond. Et c'est une œuvre qui montre la grâce de la vie, le mouvement de la vie, en opposition avec une nature préhistorique chaotique. C'est une philosophie du temps et du mouvement. C'est ça qu'il y a dans la Joconde. Et bien, cette statuette de la Vénus de Lespug, c'est pareil. C'est une œuvre qui raconte le temps et le mouvement de la vie.
Vous l'avez étudiée pendant de longues heures. Qu'est-ce que vous en avez déduit ? Qu'est-ce que vous en avez appris ? Et peut-être, est-ce qu'il nous reste encore des interrogations à se poser ?
Alors, oui, je l'ai non seulement regardée pendant de longues heures, mais je dirais même de longues années, puisque j'ai un très joli moulage chez moi depuis plus de 30 ans. Et ça fait 30 ans que je la regarde et que chaque fois que je passais à côté d'elle, que je la regardais, je trouvais toujours qu'il y avait une anomalie dans cette représentation entre la partie haute du corps, la partie basse du corps, comme si nous avions affaire à des personnages différents. Il y avait quelque chose qui clochait, si vous voulez, entre le haut très très fin, très très retenu, et la partie basse beaucoup plus développée, exposée, élargie, etc. Donc il y avait quelque chose, et j'ai toujours pensé que cette figurine voulait nous raconter une histoire.
Alors qu'est-ce que ça nous apprend concrètement sur cette période de la préhistoire ?
Concrètement, ça nous apprend d'abord qu'il y avait des génies à ce moment-là, à l'égal de quelqu'un comme Léonard ou quelques autres. Ça nous apprend aussi qu'à cette époque-là, je ne dis pas tous, ça j'en sais rien, mais quelques personnes au moins étaient capables de géométrie, de mathématiques. Ça aussi, c'est une chose qui est tout à fait surprenante. Ça nous montre aussi que ces gens-là sont philosophes. Ce sont des artistes de la vie, ce sont des personnalités très fines. Ça nous apprend ça, que nous ne pouvons absolument pas considérer ces gens-là comme des arriérés, pas très malins, tout juste bons à tailler du silex. Non, pas du tout. Oui. Nous avons affaire à des intelligences et des esprits extrêmement raffinés. Et ça, c'est vraiment ça qu'il faut retenir, je pense.
C'est la Vénus de Lespug en Haute-Garonne qui a été révélée en 1922. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut voir la Vénus de Lespug quelque part ? Est-ce qu'elle est dans un musée ?
Lorsqu'elle a été découverte en 1922, René de Saint-Perrier et son épouse Suzanne, qui l'avait brisée, elle a été brisée, elle était déjà un peu cassée, mais ils l'avaient un peu brisée, ils sont vite revenus à Paris et ils l'avaient portée au Muséum d'Histoire Naturelle où elle a été restaurée, et très très bien restaurée d'ailleurs, par l'atelier de restauration de l'époque. Et ensuite, ils l'ont donné au Muséum d'Histoire Naturelle à Paris. Okay. Et quand s'est créé le musée de l'homme, qui est une entité qui dépend du Muséum d'histoire naturelle, elle est allée au musée de l'homme au Trocadéro à Paris. Et elle a été exposée ou pas selon les périodes. Et à l'heure d'aujourd'hui, elle est toujours exposée au musée de l'homme. Mais comme je vous disais, elle est extrêmement fragile. Il y a eu une restauration récente qui a montré l'extrême fragilité à l'intérieur, qui est quasiment en poudre tellement il est délité.
Ah oui.
Ce qui fait que maintenant, elle est présentée couchée, allongée. Il ne la présente plus sur un socle verticalement, mais il la pose sur une espèce de coussin, si vous voulez, creusé, sur lequel elle est posée. Et voilà, donc maintenant, on ne peut plus la voir debout, malheureusement.
Oui, parce qu'elle avait, été abîmée lors des fouilles, en fait, hein, avec les coups de pioche, par exemple.
Oui, c'est ça, il y a eu un coup de pioche malheureux, on dit toujours très malheureux. Un sol, parce que c'était la fin de la journée, il y avait des rochers, des blocs qui gênaient, paf, un coup de pioche qui a fait sauter un morceau, puis ensuite le second morceau a été trouvé, puis des petits fragments. Donc il y avait 11 pièces en tout. Et effectivement, dans la main, si vous voulez, dans leurs mains, ils avaient des morceaux. Et mais ils voyaient bien, ils ont bien vu qu'il s'agissait d'une forme humaine, évidemment.
Pour en savoir plus sur la révélation de la Vénus de Lespugue, rendez-vous le mercredi 22 mai à 20h à la salle du Bois de Castres de Carbonne. C'est une conférence organisée par la Pupe en Vol avec une entrée libre et gratuite. Nathalie Rouquerolles, je rappelle que vous êtes spécialisée en préhistoire. Merci à vous.
Merci infiniment à vous et ben au plaisir de vous voir à cette conférence.
Et au plaisir et bonne conférence le 22 mai à Carbonne.
Merci beaucoup.
Radio Galaxie, c'est la radio que j'écoute.